VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 9 juin 2016, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Le Nigeria, condamné à verser plus de 3 millions de dollars de compensation aux familles de victimes civiles de l'armée et des services secrets.
Au Niger, trois journalistes inculpés hier par un juge en rapport avec la publication de documents mettant en cause des personnalités publiques.
Étienne Tshisekedi a tenté de convaincre l'opposition congolaise d'aller au dialogue hier à l'ouverture de son conclave à Bruxelles.
Deux Palestiniens ont tué 4 personnes et blessé 5 autres dans un attentat hier soir à Tel Aviv, dans un quartier animé de restaurants et de bars. Et ne manquez pas la Minute Écho ainsi que les sports. Nous reviendrons aussi sur l'héritage de Stephen Keshi, l'ex-entraîneur des Aigles du Mali. Pour l'instant, le journal.
La Cour de justice de la CEDEAO a condamné le Nigeria à verser plus de 3 millions de dollars de compensation aux familles de 8 civils tués et 11 autres blessés lors d'une opération menée près d'Abuja par des soldats et des membres des services secrets nigérians. Les précisions de Michel Joseph.
La Cour ouest-africaine a statué que l'armée n'a fourni aucune prévue de son assertion selon laquelle les soldats et membres des services secrets avaient agi en état de légitime défense dans la nuit du 20 septembre 2013 lorsqu'ils ont ouvert le feu sur des militants présumés de Boko Haram dans la banlieue d'Abuja. Les victimes squattaient une maison inachevée lorsqu'elles ont été prises pour cible. Qualifiant ces violences de barbares, d'illégales et d'anticonstitutionnelles, les trois juges de la Cour ont ordonné au gouvernement nigérian de payer l'équivalent de 200 000 dollars par personne tuée et 150 000 dollars par blessé. La Commission nationale des droits de l'homme du Nigeria, qui avait enquêté au sujet de cette même affaire, avait demandé en vain au gouvernement nigérian de verser des compensations aux victimes et à leurs familles. Selon Amnesty International, les forces de sécurité nigérianes ont été responsables de la mort de quelque 8 000 civils dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans le nord-est du pays.
Au Mali, un des groupes rebelles signataires des accords de paix d'Alger, le HCUA, complique le retour à la stabilité dans le nord. C'est ce qu'estime, selon l'AFP, l'entourage agacé de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Ses proches collaborateurs déplorent, je cite, « le double jeu du Haut Conseil de l'Unité de l'Azawad avec les djihadides, les djihadistes d'Ansar Dine ». Le HCUA, signataire des accords de paix d'Alger, est constitué pour l'essentiel de dissidents d'Ansar Dine.
Au Niger, un juge a inculpé mercredi 3 journalistes. Il leur reproche d'avoir publié des documents mettant en cause des personnalités publiques, dont une des épouses du président Mahamadou Issoufou, dans une affaire de fraude à un concours d'admission à la fonction publique. Ces personnalités, dont la présidente de la Cour constitutionnelle ou encore le chef d'état-major de l'armée, ont en effet, selon les documents publiés par le journal Le Courrier, transmis aux organisateurs des listes de personnes à faire admettre au dit concours. Le concours a été annulé et depuis, les organisateurs sont en prison. Ils viennent donc d'être rejoints par les journalistes. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, fait le point.
Ali Soumana, promoteur, et Moussa Dodo, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, sont placés tous deux sous mandat dépôt à la prison civile de Niamey, avec comme chef d'inculpation divulgation de documents issus de perquisitions et diffusion d'informations pouvant influencer la décision du juge. Les mêmes chefs d'accusation sont retenus contre Soumana Idrissa Maiga, directeur de publication d'un quotidien privé, également responsable de l'imprimerie dans lequel le journal Le Courrier est imprimé. Seulement, lui a été mise en liberté. C'est au mois de mai dernier que le journal a publié des facsimilés de documents signés par des personnalités du pays. Une des épouses du président de la République, la présidente de la Cour constitutionnelle et le chef d'état-major de l'armée notamment, est transmise à des fonctionnaires en charge d'un recrutement à la fonction publique d'agents de santé pour faire admettre des personnes dont certaines n'avaient même pas concouru. Les 3 journalistes avaient été interpellés à la police judiciaire le week-end dernier. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Étienne Tshisekedi tente de convaincre l'opposition congolaise d'aller au dialogue. L'opposant historique a lancé cet appel à l'ouverture du conclave qui se tient depuis hier à Bruxelles à son initiative. Mais il pose en même temps quelques conditions. Le point avec Eddy Sango.
Nous savons qu'il y a quelqu'un, il y a un mandat qui a pu le faire et nous devons le ménager, c'est-à-dire le renvoyer très doucement le 19 décembre. Qu'il le veuille ou non, M. Kabila devra remettre, si ce n'est pas à qui il sera élu, mais il devra permettre absolument à quelqu'un pour sortir définitivement du pays. C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'on vienne au dialogue.
C'est en ces termes qu'Étienne Tshisekedi a justifié son appel. Il a rappelé avoir exigé que les dialogues se tiennent sous la médiation de la communauté internationale, des exigences qui expliquent les hésitations constatées jusqu'ici. Selon le chef de l'UDPS, les facilitateurs Edem Kodjo devraient être assistés par 4 délégués des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Organisation de la francophonie. Les dialogues devraient aussi, selon Tshisekedi, être précédés par la libération des prisonniers politique. L'absence de Vital Kamerhe et du MLC de Jean-Pierre Bemba sont très remarquables à ces assises de 2 jours. Une bonne partie de l'opposition refuse de prendre part au dialogue, accusant M. Kabila de vouloir prolonger son mandat alors que la Constitution les lui interdit.
En RDC même, un groupe de 9 officiers des FRDC serait, a-t-on appris, poursuivi par la justice militaire. Ils auraient tenu des réunions secrètes dans les territoires de Kabaré et seraient soupçonnés, dit-on, de complot avec des étrangers.
Sous l'égide de l'ONUSIDA, les 193 pays des Nations Unies sont réunis à New York du 8 au 10 juin pour la conférence annuelle de lutte contre le sida. Si l'épidémie est en déclin depuis 10 ans, il faut toutefois intensifier les efforts dans les 5 années à venir pour tenter de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Claire Morin-Gibourg.
Dès l'ouverture de la conférence, les pays membres se sont engagés à réduire le nombre de nouvelles personnes infectées par le virus chaque année. L'objectif, diminuer les 2,1 millions de nouvelles infections en 2015 à moins de 500 000 en 2020. Une déclaration faite malgré les réserves émises par la Russie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Iran notamment. Ces pays reprochent à l'ONU-SIDA de trop concentrer leur attention sur certaines populations à risque, comme les homosexuels, les consommateurs de drogue par injection ou les prisonniers. Selon le directeur de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, il faut utiliser cette déclaration pour accélérer et pour atteindre les personnes qui restent dans l'ombre. Ces personnes qui ne se font pas détecter ou soigner par peur de la discrimination et de la stigmatisation. Malgré des progrès, l'épidémie est loin d'être jugulée. Il y a toujours 36,7 millions de personnes dans le monde atteintes du sida, dont la plupart en Afrique subsaharienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
2 Palestiniens ont semé la terreur mercredi soir à Tel Aviv en ouvrant le feu sans discrimination sur des clients attablés dans un quartier animé de restaurants et de bars. Ils ont tué 4 d'entre eux et en ont blessé 5 autres. Cette attaque est l'une des plus meurtrières de la part de Palestiniens contre des Israéliens depuis le début d'une vague de violence en octobre. Ces 2 auteurs ont été arrêtés.
Les rebelles syriens marquent des points contre les djihadistes du groupe État islamique qui est attaqué sur plusieurs fronts en Syrie comme en Irak. Les rebelles ont réussi mercredi, par exemple, à rouvrir une route de ravitaillement clé dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie, après avoir mis en échec une offensive des djihadistes.
20 organisations de défense des droits de l'homme ont appelé mercredi l'ONU à remettre la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite sur sa liste noire des pays qui violent les droits des enfants pour sa responsabilité présumée dans la mort de centaines d'enfants au Yémen. L'ONU avait cédé lundi à la pression de Riyad en retirant la coalition de cette liste de pays et organisations accusées notamment d'être responsables de la mort d'enfants dans des conflits armés.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a affirmé hier dans un un programme de la chaîne NBC qu'il espérait que les démocrates trouveront une solution au cours des deux semaines à venir. Au lendemain de la victoire historique d'Hillary Clinton, son adversaire Bernie Sanders refuse toujours de jeter l'éponge. Il doit être reçu ce matin à la Maison-Blanche par M. Obama. Interrogé sur Donald Trump, le candidat républicain, Barack Obama a notamment répondu « En réalité, je suis inquiet pour le Parti républicain ».
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
L'incertitude politique en République démocratique du Congo freine la croissance économique nationale, déjà frappée par la baisse des cours de matières premières. C'est ce qu'a estimé hier le Fonds monétaire international. Cinquième producteur mondial de cuivre et premier pour le cobalt, la RDC, pays parmi les moins développés et les plus corrompus au monde, a enregistré une forte croissance économique de 2010 à 2014, tirée par l'extraction minière. L'Afrique du Sud a enregistré un recul de 1,2% de son PIB au premier trimestre selon les statistiques officielles publiées hier, faisant planer la menace d'une récession pour l'économie la plus industrialisée du continent qui tourne au ralenti depuis près de 2 ans. L'Afrique du Sud avait déjà été au bord de la récession en 2014 à cause des grèves à répétition et en 2015 en raison des coupures récurrentes d'électricité, mais l'avait à chaque fois évité de justesse. Le nombre d'utilisateurs du service de messagerie instantanée Snapchat devrait dépasser pour la première fois cette année aux États-Unis celui des réseaux Twitter et Pinterest. C'est ce que croit savoir la société de recherche eMarketer. Snapchat, dont les messages disparaissent après lecture, séduit beaucoup les jeunes utilisateurs de smartphones et devrait voir sa base d'utilisateurs américains grimper de 27% à 58,6 millions cette année.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le monde du football en deuil avec la mort de Stephen Keshi.
Oui, il s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi, selon la Fédération nigériane de football. Stephen Keshi, 54 ans, est mort d'une crise cardiaque à Benin City, dans l'ouest du Nigeria. On rappelle qu'il est le seul joueur dans l'histoire à avoir remporté une Coupe d'Afrique des Nations à la fois en tant que joueur puis entraîneur. On écoute la réaction de Claude Leroy, le sélectionneur du Togo.
C'est un vieux copain, même s'il était plus jeune que moi, mais notre aventure a commencé dans la finale 88 de la Coupe d'Afrique, dans laquelle il jouait quand on avait été champion d'Afrique contre le Nigeria en finale. Et puis, on s'est retrouvé en 2006 quand j'entraînais la RDC à Ville Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Et puis, les deux dernières fois où on s'est vu, c'était avec le Congo-Brazzaville. Quand on a gagné à Calabar, il était l'entraîneur des Super Eagles. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours des relations très privilégiées, que j'aimais beaucoup comme joueur et avec qui il se passait beaucoup de choses quand on était tous les deux. On aimait parler de football ensemble. Ouais.
Claude Leroy, le sélectionneur du Togo. Et puis Idrissa, on parle de la Copa América 2016 avec vous aux États-Unis. Les résultats de la nuit dans le groupe B, le Brésil face à Haïti.
Le Brésil a battu Haïti 7-1 hier soir à Orlando, en Floride. Toujours des bisbilles au sein du football béninois.
De nombreuses voix s'élèvent contre l'Assemblée générale élective que veut organiser le ministère des Sports. Les précisions depuis Cotonou d'Élysée Ongpatine.
C'est au ministère des Sports que ce mouvement d'humeur a eu lieu. Un grand mouvement d'ailleurs qui a regroupé les responsables du club, des arbitres, des entraîneurs et des amoureux du cuiron à travers un sit-in pour dire non à l'Assemblée générale élective qui devrait installer Endurin Moucharaf à la tête de la Fédération béninoise de football puisqu'il est le seul candidat. Dans la déclaration lue par Marc Fadairo, il exige l'annulation pure et simple de cette AG qu'ils appellent de hold-up.
Constatant que Moucharaf Endurin et son camp ont enterré les derniers espoirs de la réconciliation entamée par le ministre des Sports, nous, membres actifs affiliés à la Fédération béninoise de football, disons non à la tenue d'un congrès électif taillé sur mesure par la CAF, exigeons la tenue des assises de réconciliation de toute la famille de football et respect du protocole d'accord signé par tous les camps en présence du ministre des Sports le 31 mai 2016.
Aux dernières nouvelles, le ministre des Sports, Oswald Homeki, a rencontré une fois encore les trois camps pour trouver une solution à cette situation. Élisée Hongpatin, Boycon, VO Afrique.
On parle de basket. Le troisième match de la grande finale NBA, c'était cette nuit entre Golden State et Cleveland.
Les cavaliers de LeBron James ont ramené le score à 2-1 dans cette réédition de la finale 2015 qui se dispute au meilleur des 7 matchs. Cleveland a écrasé Golden State, le champion en titre, 120-90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au moins 18 Centrafricains auraient été tués par les casques bleus congolais en mission en République centrafricaine entre décembre 2013 et juin 2015. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport publié mardi par Human Rights Watch. Sur quoi s'appuient ces accusations? John Linden s'est entretenu avec Philippe Bolopion, directeur de Human Rights Watch auprès des Nations Unies.
Nous avons parlé dans la localité de Boili, en République centrafricaine, à plusieurs témoins qui nous ont conduits à penser à l'époque que les forces congolaises, qui étaient à l'époque déployées sous le parapluie de l'Union africaine, avaient arrêté et fait disparaître une douzaine de personnes, y compris une femme enceinte et des enfants. À l'époque, nous avions des soupçons très prononcés sur l'endroit où ces personnes avaient pu être exécutées et enterrées. Et depuis, les corps ont été exhumés et ont finalement confirmé les enquêtes de Human Rights Watch à l'époque. Et donc, c'est sur la base de ces informations que nous avons collectées nous-mêmes, mais qui ont également été vérifiées par des enquêteurs de l'ONU, que nous avons publié ce rapport qui est accablant pour les forces congolaises.
Est-ce que les autorités congolaises, justement, ont réagi à vos accusations?
Malheureusement, non. Ou en tous les cas, pas de la manière qu'on avait espéré. À l'époque, nous avions beaucoup poussé l'Union africaine qui avait fini par rappeler le contingent congolais qui était impliqué dans ce crime. Et donc ces soldats avaient été renvoyés dans leur pays, mais cela n'est pas rendre justice aux victimes de ce crime odieux. Et donc nous avons appelé des enquêtes indépendantes, nous avons écrit plusieurs fois de manière officielle aux autorités congolaises parce que ce sont les seuls à même de juger leurs soldats qui bénéficient d'une immunité sinon en Centrafrique. Et malheureusement, nous n'avons aucune indication qui nous laisserait penser que la justice congolaise s'est saisie du dossier, a enquêté et a traduit en justice les soldats qui sont responsables de ce crime atroce.
Que faut-il faire selon vous pour stopper ces égarements des casques bleus partout où ils opèrent et notamment en Afrique?
La meilleure façon de mettre un terme à ces exactions, c'est de faire un exemple des soldats qui sont rendus coupables de ce crime particulièrement odieux. L'ONU peut faire toutes les circulaires qu'elle veut, elle peut promettre d'avoir une tolérance zéro pour ce genre d'exaction. Elle peut faire des rapports autant qu'elle le veut. Tant que des soldats pourront en toute impunité commettre ces crimes et ne pas être inquiétés ou être simplement renvoyés chez eux, eh bien, cela montre à tous les autres soldats qui restent déployés dans des pays en crise qu'eux-mêmes peuvent commettre ces crimes sans avoir à craindre de conséquences.
Philippe Bolopion, directeur de Human Rights Watch auprès des Nations Unies, juin à New York.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, flambée des prix des données Internet mobiles, le prix de certaines offres ont augmenté de 500%, ce qui suscite polémique et inquiétude. De nombreuses raisons sont avancées et le vice-premier ministre, ministre en charge des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, est interpellé à l'Assemblée nationale. Reportage à Kinshasa de Gino Rehema de Top Congo FM, notre station partenaire.
Près d'un mois, les abonnés des sociétés de télécommunications ont constaté la hausse du coût de l'Internet mobile et jusqu'alors, aucune explication n'est fournie par les opérateurs de télécommunications pour justifier cette augmentation. Les Kinois s'en inquiètent.
Nous achetons les crédits chers et nous activons aussi les mégabytes, mais ce que nous utilisons, c'est pas
à nos attentes.
À chaque fois quand j'active le forfait, j'ai constaté que ça traîne pas, ça s'épuise sûrement qu'il y a un problème. Je dépense vraiment beaucoup et j'ai constaté que ça va pas. Je vois quand même que ça change quoi.
Parce que moi j'utilise Tigo. Au départ, à 50 unités, on bénéficiait des 50 mégabytes. Maintenant, on a diminué, ça devient à 35 mégabytes. Nous-mêmes, les utilisateurs, nous bénéficions moins de mégabytes qu'auparavant.
La situation devrait s'améliorer. Le député national Patrick Mouyaya, qui a initié et adressé à ce sujet une question écrite au vice-premier ministre en charge de postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, attend soit à un rabais, soit au retour à l'ancienne tarification de l'Internet mobile.
Nous avons reçu beaucoup de plaintes et beaucoup d'appels de la part de nos électeurs qui sont des consommateurs de sociétés des télécoms, y compris nous-mêmes. Nous avons constaté à partir du 10 mai une hausse difficile à expliquer d'ailleurs du tarif de forfait mégabyte. Je ne sais pas, j'essaie d'analyser la question avec mes équipes, mais je ne sais pas vous dire si c'est du simple au double, du double au triple ou du triple à 100%. Mais il est clair que la hausse du prix, elle est vertigineuse tout simplement. Je voudrais bien que le vice-premier ministre, ministre des PTNT, vient nous expliquer.
Les députés Patrick Mouyaya, élu de la ville de Kinshasa, pensent que le vice-premier ministre Thomas Louaka est à même de solutionner ce problème.
Il y a quelques jours, nous l'avons vu, comment il s'est mobilisé pour obtenir que sur les marchés, les coûts des cartes prépayées ne suivent pas les fluctuations du franc congolais. Aujourd'hui, la situation est rétablie. Nous voulons savoir, est-ce que cela est dû simplement, puisqu'il y a, le gouvernement pense qu'il faut accroître l'assiette fiscale. Nous voulons comprendre, est-ce une raison, comme beaucoup semblent le dire, des raisons politiques qui voudraient qu'on restreigne l'accès à l'Internet. Il y a toutes ces questions qui taraudent mon esprit, que j'ai voulu porter à l'attention du vice-premier ministre pour que nous puissions être fixés.
Et en attendant de répondre à la question du député, le vice-premier ministre de Postes et Nouvelles Technologies a choisi d'adresser une correspondance au président du Collège de l'Autorité des Régulations de la Poste et des Télécommunications du Congo, ARPTC en sigle, la lettre dont l'objet se trouve être hausse de prix des services des télécommunications et dans laquelle le vice-premier ministre Thomas Louaka a exhorté l'ARPTC à diligenter une enquête pour comprendre le cause de l'augmentation brusque et simultanée de l'Internet mobile constatée chez tous les opérateurs des télécommunications, car selon lui, il revient à l'ARPTC de définir les principes de tarification des services publics, des postes et télécommunications. Depuis Kinshasa, Gino Réma pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le lac Tanganyika, un des plus profonds d'Afrique, regorge de poissons de renommée internationale tels que les moukéké et les nagala. Certains sont exportés vers les pays voisins, d'autres consommés localement, mais les prix ne cessent d'augmenter. Les pêcheurs doivent par ailleurs respecter les 6 jours mensuels où il est interdit de pêcher. Notre correspondant Christophe Kourounziza s'est rendu à la plage de Kajara, à 11 kilomètres à l'ouest de Bujumbura.
Des vagues matinales embrassent la plage du lac Tanganyika à Kajaga, dans la commune de Mutimbuzi, en province de Bujumbura rurale. Les pirogues des pêcheurs ont accosté depuis l'aube, mais la pêche des ndagala, ces poissons qui nourrit beaucoup de familles burundaises de la plaine, n'était pas abondante au début de ce mois de juin. Quelques caisses de ndagala sont visibles sur la plage et des piroguiers qui attendent impatiemment que leurs frères et collègues reviennent vers les heures de midi avec d'autres gros poissons consommés dans la région comme le kouhé, les sangala et autres, mais à des prix exorbitants pour les poches des Burundais moyens. Haruna Naimana, surnommé Chanja, a commencé le métier de pêcheur quand il avait 8 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 28 ans.
Nous pêchons normalement toutes les espèces qui sont dans ce lac Tanganyika. Il y a ceux qui pêchent le ndagala, d'autres les sangala, Isinga, Ibiramba, Ibidonde, et chaque espèce exige certains moyens pour les capturer. Il y a des poissons qui exigent la présence des filets que l'on achète en Chine, des filets qui ont de gros yeux tels que l'exige la loi. Et ça nous aide dans notre vie de pêcheur.
Haruna Nahimana revient sur la mesure du gouvernement burundais de ne pas pêcher pendant 6 jours le mois.
Normalement, un pêcheur a besoin d'aller dans le lac tous les jours, mais ces 6 jours de repos nous aident à aller voir la famille, les enfants.
S'il est vrai que le ndagala est le poisson que l'on trouve souvent à cette plage de Kajaga, il arrive que de gros poissons soient capturés par les pêcheurs.
On peut acheter les gros poissons à 25 000, 25 000 soit entre 10 et 12 dollars américains. Ce sont des gros poissons, ils sont petits, ça varie entre 5 et 8 dollars américains. Mais ici, on ne trouve pas du poisson moukéké, car aux alentours, il y a beaucoup d'usines qui font couler des déchets et des acides dans le lac. Le moukéké aime l'eau dense et claire. Il y a des rivières qui déversent de l'eau sale dans le lac.
Sur cette plage, un petit commerce est né. Des mamans vendent le ndagala fumé, d'autres font des brochettes d'ndagala. Cette maman parvient à gagner au moins un dollar par jour quand elle est sur cette plage qui lui est fétiche.
Je me présente ici le matin avec 10 000 francs burundais que j'ai empruntés. Après vente, je peux gagner 1 000 ou 2 000 francs burundais. Je peux ainsi rembourser les 10 000 et les enfants peuvent avoir à manger avec cet argent gagné.
Le lac Tanganyika est le plus long lac d'eau douce du monde. Il est le deuxième lac africain par la surface après le lac Victoria, mais aussi le deuxième au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Comme promis, revenons sur le leg de Stephen Keshi, 54 ans, décédé dans la nuit de mardi à mercredi au Nigeria. Il a été entraîneur des Aigles du Mali d'avril 2008 à février 2010, avant d'être renvoyé après la CAN Angola 2010, où les Aigles ont été éliminés en phase de poule. Alors comment les Maliens ont-ils réagi à cette mort de Bamako? Kassim Traoré.
Stephen Keshi fait partie des footballeurs nigériens qui ont écrit les belles pages des Green Eagles. Moussa Bouli, chroniqueur sportif.
Pour moi, c'est l'un des symboles de ce qu'on peut appeler les années du football nigérian, avec des clubs comme Iwanyawu, Bender, Insurance et d'autres grands clubs où on avait vraiment de grands joueurs. C'est la génération de Okocha et autres là qui ont écrit les plus belles pages, je pense, du football nigérian. Donc je le connais en tant que joueur.
C'est l'actuel président de la Fédération malienne de football du Mali, Baba Diarra, qui a fait venir Stephen Keshi en avril 2008. Il était chargé de l'équipe nationale. Ainsi, d'avril 2008 à février 2010, Stephen Keshi était l'entraîneur des Aigles. Cyril Diallo, membre de la Fédération malienne de football.
J'ai eu la chance, le privilège d'être chargé à l'époque par Salif Keita, qui était président des fédérations, d'essayer de retrouver Stephen Keshi qu'on voulait engager comme entraîneur après la CAN 2008 au Ghana. Il m'a dit, ah, si Salif Keita lui demande, vraiment, il était très ravi et comme prévu, il a pris son vol, il est venu à Bamako. Donc vraiment, c'est un homme très affable et très gentil et il était très 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 pieux, il était toujours à l'église.
Son bilan n'était pas réalisant après la CAN d'Angola. Une victoire, un nul et une défaite et le Mali fut éliminé au premier tour. Il a été remercié. Moussa Bouli travaillait à l'époque au ministère des Sports comme chargé de communication.
C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très franc et qui est très disponible. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il venait au ministère, c'était toujours pour essayer de façon collégiale comment aborder une difficulté, comment surmonter une difficulté, comment aplanir aussi souvent les différends avec la fédération. Sa malchance a été qu'il a géré l'équipe nationale du Mali à une période déjà où la fédération était dans une zone de turbulence parce qu'il a, je crois qu'il a commencé avec Salif Keita et ensuite avec une partie du mandat du défunt Amadou Nkolado Cissé du Kola.
Alou Badra Aïdra, vice-président de l'Association des journalistes sportif du Mali, AJSM.
On a beaucoup travaillé ensemble quand il était l'entraîneur national des Aigles du Mali. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est une grande perte pour le football africain. Je n'ai jamais vu un entraîneur comme Keshi. Il est courtois, il est très simple, il est social. Moi, je peux dire les raisons de son départ. Ça, c'était le fait que le Mali a été éliminé dès le premier tour, lors de la CAN 2010. Donc, je pense que c'est ça les raisons. Parce qu'en matière de football aussi, il faut les résultats. On recrute un entraîneur pour faire des résultats.
Keshi était d'un commerce très facile, toujours et un grand bosseur. Malgré sa fin de contrat en queue de poisson, il a beaucoup aimé le Mali. Moussa Bouli.
Malgré la façon dont il a quitté le Mali, il n'a jamais gardé rancune. Et on était au même hôtel à Durban. On se côtoyait. Il a tenu à saluer tous les responsables. Après la victoire du Nigeria, je dirais, il avait donné des instructions fermes pour que le Nigeria ne puisse pas faire soi d'une certaine façon à l'hôtel. Parce que nous étions dans le même hôtel. Il a demandé aux gens, on a gagné, mais vraiment soyez fair play. Dites-vous que vous êtes avec des gens qui ont perdu. Et ce sont vos beau-frère.
À la Fédération malienne de football, son décès est considéré comme une grosse perte pour le football africain. D'or en paix, Big Boss, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.